La Suède et la constitutionnalisation de la société en quatre ordres. Examinons maintenant la Suède, qui offre l'exemple étonnant et relativement méconnu d'une constitutionnalisation précoce de la société en quatre ordres, suivie d'une transition propriétariste originale, au cours de laquelle le royaume de Suède poussa plus loin encore que la France et le Royaume-Uni les logiques propriétaristes, en mettant en place à la fin du XIXe siècle un audacieux système de droit de vote proportionnel aux propriétés détenues et aux impôts acquittés par les uns et les autres. Le cas suédois est d'autant plus intéressant qu'il s'agit du pays qui est devenu au XXe siècle le symbole emblématique d'une société social-démocrate. De fait, les sociaux-démocrates suédois du SAP ont conduit le gouvernement du pays dès le début des années 1920, lorsque le dirigeant historique du parti, Hjalmar Branting, devint premier ministre, puis de façon quasi permanente de 1932 à 2006, ce qui leur a permis de mettre en place un système social et fiscal extrêmement sophistiqué et d'atteindre ainsi l'un des niveaux d'inégalité les plus faibles observés dans l'histoire, à tel point que l'on s'imagine souvent que la Suède a toujours été un pays intrinsèquement et éternellement égalitaire. En réalité, il n'en est rien. La Suède était jusqu'au XIXe siècle et au début du XXe siècle un pays profondément inégalitaire, et par certains côtés encore plus inégalitaire que les autres pays européens, ou plus précisément, plus sophistiqué dans l'organisation de son inégalité, plus systématique dans l'expression de son idéologie propriétariste et de son incarnation institutionnelle. Ce sont uniquement des mobilisations populaires particulièrement efficaces, des stratégies politiques spécifiques et des institutions sociales et fiscales bien précises qui ont permis que la Suède change de trajectoire. Certains s'imaginent parfois qu'il existe des essences civilisationnelles ou culturelles qui seraient par nature égalitaires ou inégalitaires. La Suède et ses sociaux-démocrates seraient égalitaires depuis toujours, peut-être du fait d'une passion ancienne venant des Vikings, alors que l'Inde et ses castes seraient éternellement inégalitaires, sans doute pour des raisons quasi mystiques venues des Aryens. En vérité, tout dépend des institutions et des règles que chaque communauté humaine se donne, et tout peut changer très vite en fonction des rapports de force politico-idéologiques entre les différents groupes sociaux en présence, et aussi de logiques événementielles et de trajectoires instables qui mérite d'être étudié de près. L'examen de la Suède est un parfait antidote aux crispations identitaires et conservatrices qui caractérisent trop souvent le débat sur l'inégalité et l'égalité. Il rappelle également que l'égalité est toujours une construction sociopolitique fragile et que rien ne doit être considéré comme acquis. Ce qui a été transformé par les institutions et par la mobilisation politico-idéologique peut l'être encore par les mêmes moyens, pour le meilleur et pour le pire. Revenons en arrière et indiquons les principaux éléments. De 1527 à 1865, la monarchie suédoise s'appuyait sur un parlement, le Riksdag, qui comprenait des représentants des quatre ordres ou états composant alors le royaume, la noblesse, le clergé, la bourgeoisie urbaine et la paysannerie propriétaire. Par comparaison à la logique trifonctionnelle habituelle, il s'agissait donc d'une organisation explicitement quaternaire et non ternaire. Chacun des quatre ordres désignait ses représentants en fonction de règles qui lui étaient propres, et en pratique, parmi les membres de la bourgeoisie et de la paysannerie, seuls les plus aisés et acquittant les impôts les plus importants avaient le droit de vote. Les votes formels, au sein du Riksdag, se faisaient séparément par ordre, à la façon des états généraux sous l'ancien régime français. Les règles établies dans le cadre de Riksdagsordning de 1617 précisaient que le roi pouvait trancher de façon décisive en cas d'égalité 2-2 entre les quatre ordres. Dans le Riksdagsordning de 1810, les quatre ordres devaient en principe continuer de voter et de débattre pour qu'une majorité 3-1 ou 4-0 apparaisse. En pratique, cependant, la noblesse exerçait un rôle nettement dominant dans ce système théoriquement quaternaire. Elle était numériquement plus fortement représentée que les autres États au Riksdag, ce qui lui permettait d'occuper plus de place dans les comités où se préparaient les décisions. Le Riksdag de 1809 comptait par exemple 700 représentants de la noblesse, 42 pour le clergé, 72 pour la bourgeoisie et 144 pour la paysannerie. Surtout, les membres du gouvernement étaient choisis par le roi, qui disposait lui-même de prérogatives importantes en matière budgétaire et législative, et dans les faits, les principaux ministres étaient généralement des nobles. Il faut attendre 1883 pour qu'un premier chef de gouvernement non noble apparaisse. Si l'on considère l'ensemble des gouvernements suédois de la période 1844-1905, on constate que 56% des ministres étaient membres de la noblesse, alors que ce groupe représentait moins de 0,5% de la population. Par comparaison au Royaume-Uni et à la France, une différence importante vient du fait que la monarchie suédoise organisa des recensements systématiques de sa population de façon extrêmement précoce. Relativement sophistiqués, ils furent ainsi menés régulièrement à partir de 1750. C'est dans ce cadre que l'État monarchique suédois donnait une signification administrative précise et une délimitation officielle à la noblesse, en fonction de généalogies certifiées remontant à l'ancienne classe guerrière et féodale et des lettres d'ennoblissement décidées par le monarque. Cette définition officielle de la noblesse n'existe ni au Royaume-Uni ni en France, sauf pour les pairs du royaume et la fine noblesse titrée britannique. Ces recensements font état d'une noblesse suédoise qui était déjà relativement étroite dès le milieu du XVIIIe siècle et dont le nombre absolu progresse par la suite moins vite que la population totale du royaume. La classe nobiliaire regroupait environ 0,5% de la population en 1750, autour de 0,4% en 1800 et à peine 0,3% lors des recensements de 1850 et 1900. Ces niveaux ne sont pas très différents de ceux estimés pour le Royaume-Uni ou la France, sauf qu'il s'agit en Suède d'une catégorie administrative et politique officielle. On voit ainsi s'y développer une symbiose inhabituellement forte entre la formation de l'État centralisé et la redéfinition du schéma trifonctionnel, en l'occurrence dans une variante quaternaire. Le régime du Riksdag quaternaire fut remplacé en 1865-1866 par un système parlementaire censitaire composé de deux chambres. Une chambre haute, élue par une petite minorité de grands propriétaires, à peine 9000 électeurs, soit moins de 1% de la population adulte masculine, et une chambre basse, également censitaire, mais sensiblement plus ouverte, puisqu'environ 20% des hommes adultes disposaient du droit de vote pour en désigner les membres. Par comparaison aux réformes électorales mises en place à la même époque dans les autres pays européens, il s'agissait toutefois d'un système extrêmement restrictif. Le suffrage universel masculin fut définitivement rétabli en France en 1871, et les réformes britanniques de 1867 et 1883 portèrent à 30% puis 60% le pourcentage d'hommes adultes disposant du droit de vote. Il faut attendre les réformes de 1909-1911 pour que le suffrage soit étendu en Suède et 1919 pour que les conditions de propriété soient totalement supprimées pour les hommes, puis que le suffrage universel soit étendu aux femmes en 1921. Autour de 1900, avec à peine plus de 20% des hommes adultes disposant du droit de vote, la Suède fait partie des pays européens les moins avancés, en particulier par comparaison à la France et au Royaume-Uni, mais aussi aux autres pays d'Europe du Nord. Un homme sans voix. La démocratie hypersensitaire en Suède, 1865-1911. Surtout, la grande particularité du système censitaire appliqué en Suède entre 1865 et 1911 est que les électeurs disposaient d'un nombre de voix prenant en compte le montant de leurs impôts, de leurs biens et de leurs revenus. Au sein des 20% des hommes suffisamment riches pour pouvoir voter lors des élections à la Chambre basse, les électeurs étaient ainsi répartis en une quarantaine de groupes et chaque groupe était associé à un poids électoral différent. Concrètement, les membres du groupe le moins riche avaient chacun une voix, alors que ceux du groupe le plus riche avaient jusqu'à 54 voix chacun. Le barème exact déterminant le poids électoral, Fyrkar, de chaque électeur, était fixé par une formule qui dépendait à la fois de l'ampleur de ses impôts, de ses propriétés et de ses revenus. Un système similaire s'appliquait pour les élections municipales menées en Suède de 1862 à 1909, avec pour particularité supplémentaire que les sociétés anonymes avaient également le droit de participer à ces élections locales, elles aussi avec un nombre de voix dépendant du montant de leurs impôts et de l'ampleur de leurs biens et bénéfices. Pour les municipalités urbaines, un même électeur, personne privée ou entreprise, ne pouvait toutefois pas disposer de plus de 100 voix. Pour les municipalités rurales, il n'existait en revanche aucun plafonnement de ce type, à tel point que, lors des élections municipales de 1871, on comptait 54 communes en Suède où un seul électeur détenait plus de 50% des voix. Parmi ces dictateurs à l'impeccable légitimité démocratique figurait par exemple le Premier ministre lui-même, le comte Arvid Posse, qui, dans les années 1880, disposait à lui seul de la majorité des voix dans sa commune de résidence, où sa famille possédait un vaste domaine terrien. On comptait également 414 communes où un seul électeur accaparait plus de 25% des voix. Cette étonnante expérience hypersensitaire suédoise, qui prit fin avec les réformes électorales de 1911, et plus encore avec l'avènement du suffrage universel en 1919-1921, est riche en enseignements. Elle montre tout d'abord à quel point il n'existe pas d'essence civilisationnelle inégalitaire ou égalitaire. La Suède est passée en quelques années du système propriétariste hyper inégalitaire le plus exacerbé en place jusqu'en 1909-1911 à la quintessence de la société social-démocrate égalitaire avec l'arrivée au pouvoir du SAP. On peut d'ailleurs considérer que la seconde phase est une réponse aux excès de la première, au moins en partie. Les classes populaires et moyennes suédoises, qui étaient exceptionnellement éduquées pour l'époque, ont été exposées à une forme extrême de propriétarisme, et cela a pu nourrir le sentiment qu'il était temps de se débarrasser de cette idéologie hypocrite et de passer à autre chose, en l'occurrence en adoptant une idéologie radicalement différente. Nous retrouvons fréquemment ce type de grand écart au sein des trajectoires politico-idéologiques nationales, par exemple concernant l'évolution passablement chaotique de la progressivité fiscale et des représentations de l'inégalité juste aux États-Unis et au Royaume-Uni au cours du XXe siècle. On peut également penser que la construction de l'État centralisé moderne, particulièrement précoce en Suède, ouvre naturellement sur plusieurs trajectoires possibles. Autrement dit, une même organisation étatique, fortement structurée, peut être mise au service de différents types de projets politiques. Les recensements suédois des ordres et des classes, des impôts et des biens, menés dès le XVIIIe siècle, peuvent permettre d'imaginer des registres répertoriant des électeurs à une voix et d'autres à 100 voix au XIXe siècle. Après des transformations idéologiques considérables, et une prise de contrôle de l'appareil d'État par les sociaux-démocrates, cette capacité étatique peut également mener au développement des registres de l'État social au XXe et XXIe siècle. En tout état de cause, cette très rapide transformation suédoise montre l'importance des mobilisations populaires, des partis politiques et des plateformes programmatiques dans la dynamique des régimes inégalitaires. Si les conditions sont réunies, ces processus peuvent conduire à la transformation prompte et radicale d'un régime inégalitaire, en l'occurrence dans les conditions de l'état de droit et d'une délibération politique et parlementaire relativement apaisée.